C'est l'heure de votre rendez-vous Parole de vie, soyez les bienvenus. Le plus que vivant est-il au vivant ce que le plus que parfait est à l'imparfait? Vous me direz que c'est une drôle de question, mais la réponse est peut-être à découvrir dans les propos de Francine Carillo, notre invitée aujourd'hui. Francine Carillo est en effet l'auteur d'un petit recueil de méditations poétiques qui prennent leur source dans la Bible et ce recueil a pour titre « Le plus que vivant ». On retrouve son auteur au micro de Muriel Ramoni.
Francine Carillo, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous à Genève. Vous avez été longtemps pasteur dans cette ville avant de vous consacrer à l'écriture. Comment vous expliquez ce passage finalement de la théologie ou de la pastorale à l'écriture ?
Écoutez, je crois que c'est à la fois un passage, mais c'est aussi une véritable continuité, parce que j'ai toujours écrit depuis très longtemps. L'écriture m'accompagne dans mon ministère. C'est une manière de prendre distance, peut-être un peu par rapport à la vie de tous les jours, et de réfléchir ou de mettre en mots ce qui m'habite profondément. Et c'est vrai que j'ai comme ça eu le sentiment il y a plus d'une année que j'avais donné sous la forme du ministère pastoral, que j'avais donné ce que j'avais à donner et que j'avais besoin maintenant d'une certaine forme de retrait pour mettre des mots sur ce qui m'habite, mais pour aussi prendre le temps d'aller plus avant dans l'étude de la parole biblique. Je crois que c'est quelque chose qui me nourrit moi-même profondément et je découvre qu'au fond, quand on fait ce travail de recherche, de lecture des textes et qu'on le fait en vérité, on rejoint aussi beaucoup de monde. Donc, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir cessé en quelque sorte mon ministère, mais simplement, il a pris une autre forme.
J'ai lu sur Internet une petite citation de vous. Vous avez dit « On a besoin de mots vrais. À force de pensifs, les églises se vident. » Et puis, une autre phrase de vous aussi, « Je rêve d'inventer l'Église dans des lieux de vie proches de la popote du quotidien. » Expliquez-moi ça un peu.
Oui, alors peut-être que ça, c'est mon côté femme, féminin. C'est-à-dire que je pense qu'on est, en tant que femme, beaucoup plus... Peut-être qu'il faut éviter les vieux clichés, mais on est quand même, par la force des choses, très en prise avec le quotidien et avec la popote et avec la cuisine. J'invente rien parce que Thérèse d'Avila disait déjà à ses sœurs, mais Dieu est présent dans vos marmites. Donc, je crois que les tâches, il n'y a pas que les marmites, bien sûr, mais les tâches quotidiennes, celles qui nous appellent tous les jours, sont aussi des lieux de réflexion et peut-être même des manières de rencontrer Dieu à travers les gestes les plus simples. Donc voilà.
On va revenir à votre travail d'écriture. Vous venez d'écrire, fin d'année passée, 2009, un petit recueil qui s'appelle « Le plus que vivant ». C'est finalement un petit recueil poétique qui est très en phase, si on peut dire, avec la Bible. Il y a à chaque fois un verset biblique en exergue de vos poèmes. C'est presque une étude biblique.
Oui, c'est-à-dire, je crois que mon écriture, elle va toujours puiser à la source qui, pour moi, est ma source de référence, c'est-à-dire que, oui, l'écriture biblique, parce que je crois que, en tout cas pour ma part, j'ai besoin d'être décentrée par une parole qui ne vient pas de moi, mais qui m'est donnée et que je reçois comme une bonne nouvelle, on va dire, pour reprendre le terme de l'évangile, puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Et je crois que cette parole peut devenir bonne nouvelle, mais à condition qu'on se la coltine, qu'on se batte avec elle, qu'on essaye d'en trouver la substantifique moelle, ce qui va parler en elle. Et donc, j'aime ce travail de me laisser interpeller par un verset. Alors, j'ai choisi, c'est très subjectif, les versets que j'ai pris pour mon petit livre, ce sont des passages de l'écriture qui ont fait question, qui m'ont parlé et que j'ai essayé de commenter. Mais je voudrais aussi dire que ce n'est pas du tout un commentaire biblique ni un commentaire exégétique. C'est vraiment une lecture existentielle de l'écriture que je tente là. Marcher léger, voilà à quoi nous sommes invités. L'appel vient nous chercher dans notre peur de manquer et notre manie d'accumuler. Nous traversons les jours alourdis de bagages futiles. Nous trébuchons sur notre encombrement sans qu'il fasse sens et nous offre une portance. D'où l'urgence d'écouter ce qui en nous appelle la légèreté. Le pèlerinage qui nourrit n'est-il pas celui qu'on risque à cœur ouvert et à main nue, dans la confiance que demain aura son pain, aussi sûr que la nuit aura son matin. C'est un texte qui commente ce verset « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent », et qui, je crois, est ancré dans mon vécu actuel, c'est-à-dire de ce choix de la simplicité, de la légèreté pour aller à l'essentiel.
Dans le liminaire de votre livre « Le plus que vivant », vous écrivez « Au cœur du christianisme, le Christ, en quoi ce Dieu à hauteur d'homme nous aide-t-il à faire notre métier d'humain ?» C'est une jolie expression ça, le métier d'humain. Puis vous posez cette question, mais finalement vous ne vous en donnez pas la réponse et je suis assez curieuse, j'aimerais bien connaître votre réponse. En quoi Jésus-Christ nous aide-t-il à faire ce métier d'humain ?
Alors, je crois que c'est vraiment tout le propos de mon petit livre. C'est que cette interrogation est née à travers les nombreux accompagnements que j'ai faits dans mon ministère. Je me rends compte que nous avons un trésor au cœur du christianisme, bon, qui est le Christ, mais qu'au fond, et curieusement, c'est souvent pas, en tout cas, une référence pour la plupart des gens que ce Dieu qui s'est fait homme, ce Dieu qui est devenu tout proche de nous, au fond. C'est comme si ça ne nous aidait pas d'avoir un Dieu trop proche. On entend beaucoup aujourd'hui que, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose plutôt que rien. On parle d'énergie, on parle du cosmos, enfin des forces cosmiques, etc. Donc, de choses ou de réalités qui sont très loin, très haut, surtout pas tout près. Et c'est pour moi une interrogation, parce que je crois que justement, Dieu n'est pas à chercher aux confins de l'univers, mais qu'il est à chercher au cœur même de nos existences et au cœur même de notre cœur, je dirais. Et le Christ représente cette humanité qui a, au fond, vécu cette promesse-là, que Dieu n'est pas loin, mais qu'il est tout proche. Il n'est pas non plus tout en haut, mais il est tout en bas, dans les réalités les plus difficiles à vivre, les plus douloureuses. Et c'est là que Dieu se tient. Et c'est, je crois, ce que le Christ vient nous raconter par sa vie.
Comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce Christ ?
C'est une longue histoire. C'est une histoire qui remonte certainement à mon enfance, par en particulier ma mère, qui m'a beaucoup accompagnée, on va dire, qui m'a mis entre les mains la Bible depuis toujours. Et donc, j'ai reçu une éducation, on va dire, chrétienne depuis longtemps. Et si j'ai ensuite choisi de faire des études de théologie, c'était en tout cas pas pour devenir pasteur, ça c'est sûr. Donc la vie nous réserve des surprises. Mais c'était d'abord parce que j'étais, au fond, très interrogée, passionnée par l'humain, par tout ce qui touche le mystère de l'humain. Et du coup, pour moi, Dieu faisait partie de ce mystère. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à faire de la théologie.
La théologie s'intéresse à Dieu et vous, ce qui vous a interpellé à faire de la théologie, c'est l'humain, justement. Mm-hmm. Il y a comme un paradoxe.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais je crois que c'est aussi là la grande richesse de cette voie-là, c'est qu'au fond, le mystère de l'être humain, on peut l'aborder de toutes sortes de manières. Et je suis, pour ma part, très interpellée par la psychanalyse, par les sciences humaines. Et je crois que là, on a des dialogues magnifiques à entretenir avec ces disciplines-là. Si on est dans l'ouverture les uns aux autres, peut-être qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de méfiance par rapport à la théologie dans ces milieux-là aussi. Hein. Donc c'est vrai que quelquefois, le dialogue n'est pas, enfin, c'est un peu compliqué.
J'aimerais revenir sur votre livre, Le Plus que Vivant, qui tourne vraiment autour de la figure du Christ, de Jésus. C'est presque, c'en est carrément le centre. Vous écrivez aussi de lui qu'il est porteur, quelque part, d'une vie portée à sa plus haute densité et à sa plus féconde intensité, dont la promesse est en chacun.
Oui, c'est ça. C'est, d'une part, au fond, je crois que ce que j'ai essayé de dire à travers ce petit livre, c'est que Jésus n'est pas un en face ou un modèle morale qu'il faudrait imiter, mais qu'il représente la vie qui est en nous à son point de plus haute densité, justement, cette vie vraie, cette vie pleinement vivante, qu'en fait chacun d'entre nous porte en lui, mais ignore peut-être, ou bien n'arrive pas à dégager pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de blessures. Mais en réalité, cette vie que le Christ a vécue, elle est présente, moi je le crois profondément, en chacun d'entre nous. C'est vrai qu'elle est chez certains êtres extrêmement abîmés, quasiment irrécupérables, et ça c'est le drame de la souffrance humaine. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes habités par cette vie que le Christ a vécue et qu'il représente. Et c'est ça que j'aimerais, au fond, que j'aimerais faire partager. C'est que le Christ n'est pas un autre qui représenterait l'idéal de ce que nous n'arrivons pas à vivre, mais il est au cœur de notre vie, ce qui nous donne d'être vivants. La première chose qui m'est apparue concernant le Christ, c'est qu'au fond, il n'est pas la réponse à toutes nos questions, mais qu'il est la question. Qu'il est la question qui nous garde en vie, qui nous garde vigilants, qui nous garde curieux aussi de ce que nous avons à vivre. Et la preuve, c'est qu'effectivement, quand on regarde, on traverse les évangiles, on s'aperçoit que Jésus pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Hein. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai essayé de reprendre, au fond, les questions qu'il pose aux uns et aux autres, à ceux de son entourage. Pas pour de nouveau y répondre, mais pour que chacun d'entre nous se laisse, au fond, questionner à son tour et se demande quelle réponse il pourrait apporter à cette question fondamentale que représente le Christ.
Quelles sont les questions qui vous ont le plus interpellé, qui vous parlent le plus ou dont vous avez le sentiment que Jésus vous les pose, ces questions ?
Il y a cette question qui est centrale dans l'évangile, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» Au fond, c'est la question qui est posée à chacun d'entre nous. C'est celle de notre véritable identité, de notre véritable nom, de la place que nous occupons dans la vie parmi les autres vivants. C'est cette question fondamentale de qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde, qui est quand même une question que tout le monde porte. Je crois que vraiment là, on est au cœur de la vie vivante à laquelle le Christ nous appelle. Une vie qui doit, au fond, si possible, ne pas subir dire ce qui se présente, mais agir et être être où nous avons à devenir les sujets de notre existence et non pas simplement des marionnettes qu'on balade à droite et à gauche.
On parle de questions existentielles. Vous avez aussi écrit dans le préambule, si on peut dire, de la deuxième partie, de votre recueil, une partie que vous avez intitulée « L'abandon à plus grand ». Et vous écrivez dans la petite introduction « À écouter le plus que vivant, nous entendrons peut-être ce qu'il en est de la racine de notre être ». Donc on est en plein dans ces questions d'identité. Mais étonnamment, cette partie de votre livre, en exergue des poèmes où vous avez choisi les 7 dernières paroles du Christ à la croix. Mm-hmm. Comment est-ce que tout à coup ces 7 paroles de Jésus sur le point de mourir va nous ramener à notre propre identité ?
Alors, oui, il y a les 7 paroles, mais il y en a aussi d'autres. Ce que j'ai voulu montrer dans cette seconde partie, c'est au fond la relation que le Christ entretient avec son Père. Parce que je crois vraiment que ça fait partie de l'identité de Jésus, c'est de ne jamais, au fond, il ne s'est jamais présenté pour lui-même comme en s'auto-fondant, en quelque sorte, mais toujours comme envoyé par le Père. Et tout ce qu'il fait, c'est au nom du Père, enfin voilà. Et d'autre part, il y a effectivement chez lui cette constante relation au Père qui est de l'ordre de l'abandon à plus grand que lui-même. Et ça, je crois vraiment que c'est fondamental dans notre... Enfin, ça fait partie de notre humanité, nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre origine, et ça, chacun d'entre nous peut le comprendre parce qu'on n'a pas la main, on ne met pas la main sur sa naissance. Nous nous recevons de nos parents, chacun d'entre nous se reçoit de ses deux parents. Nous sommes toujours précédés. Et donc là, le Christ de même est précédé par le Père en tout ce qu'il fait, et il revient toujours au Père chaque fois qu'il est appelé à une action particulière. Combien de fois il lève les yeux au ciel, ou il prie, ou il se retire pour prier dans la solitude. Donc il y a toujours cette relation fondamentale qui est au fond aussi faite d'humilité. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, nous le recevons d'un autre que nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et évidemment que les paroles du Christ sur la croix, en particulier celle qui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est pas une parole que l'on dit seulement à la fin de sa vie, je veux dire au moment de la mort, mais je crois que c'est une parole qui est à dire, ou qui est à penser, ou qui est surtout à vivre chaque moment de notre existence. C'est-à-dire que si nous sommes en vie, ce n'est pas de notre fait, mais c'est parce que nous recevons cette vie et chaque matin nous la recevons à nouveau. Et là, il y a quelque chose qui pour moi est très très fondateur et extrêmement important que vient nous montrer le Christ.
Une autre parole peut-être qui nous interpelle, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous dites dans le poème qui concerne cette parole que Christ est comme vidé de Dieu.
Oui.
Et cette question finalement, elle est très humaine aussi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu nous abandonne?
Ça, c'est la toute grande des questions.
On se sent souvent abandonné par Dieu. Finalement, c'est un peu triste. Est-ce que Dieu est un Dieu qui se cache, qui se tait, qui nous abandonne?
Alors, c'est la question des questions. C'est la question qui, évidemment, a traversé toute la Shoah aussi. Où Dieu était-il? Où Dieu est-il encore aujourd'hui, chaque fois qu'on assiste à des exactions terribles, à des massacres, à des génocides? Elle sera toujours là, cette question. Parce que je crois que dans l'extrême souffrance, c'est vraiment le cri qui nous sort des tripes. Parce que nous avons tous dans la tête cette idée que Dieu devrait quand même se bouger et puis nous éviter. Mais voilà, le fait, on va dire, que Jésus ait vécu cela, c'est bien une preuve de son humanité. C'est qu'il dit là ce que chacun d'entre nous dit ou pense profondément à ce moment-là terrible ou de l'abandon, où en fait on se sent abandonné. Voilà, on se sent abandonné. Le sommes-nous vraiment, en vérité? C'est-à-dire que c'est de l'ordre de ce que nous ressentons, nous pensons. Mais Dieu est-il pour autant absent? Je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Ce que je pense profondément, c'est que quand on peut encore crier, c'est qu'on a quelque part l'espoir qu'il y a une oreille qui nous entend. Et c'est bien ce que le Christ... Alors, il est vidé de Dieu dans le sens que l'absence est totale. Je veux dire, il y a plus aucun recours à ce moment-là. Il va rien se passer de magique. Il n'y aura pas de solution où tout va être rétabli et tout va être changé en espérance. Et que c'est quand même ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui. Il y aura toujours cette question du mal et de la souffrance au fond à laquelle il n'y a pas de réponse, sinon que à travers le cri que nous poussons à ce moment-là, d'une certaine manière, je dirais, on reste encore en vie.
Mais comment faire pour ne pas rester finalement dans le côté un peu dramatique de cet ultime cri ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelle autre parole de Jésus peut nous mener plus loin ? Parce que vous-même, dans votre livre, finalement, vous ne vous arrêtez pas à ce cri. Oui, il y a une dernière partie qui s'appelle
la traversée de l'opacité. Oui, justement, comment on va dire ? Il n'y a pas de réponse. Le cri est poussé, là, le cri de l'abandon. Et la réponse, elle va venir à travers la manière dont on va traverser justement ce qui est difficile. C'est-à-dire que c'est peut-être après coup aussi qu'on peut réaliser que « Ah ben oui, j'ai réussi à traverser ce moment, j'ai réussi à ne pas me laisser complètement démolir, défaire par la souffrance, mais que quelque chose en moi est resté vivant ». Et ce petit quelque chose, on va dire, il est justement témoin d'une vie plus forte que la mort. Et je crois que le Christ, témoigne de ça. Alors, bien sûr, à travers sa résurrection, mais aussi à travers ce chemin qu'il nous propose d'endurer au fond l'opacité. Parce que il n'y a pas d'autre de chemin. On peut pas la contourner. La vie humaine, elle est faite de ça. Elle est faite de moments magnifiques, mais aussi de moments terribles. La foi elle ne nous fait pas marcher comme ça, de façon légère tous les jours. Pas du tout. Mais simplement, elle nous donne cette force de vivre ce que nous avons à vivre quotidiennement, dans l'espérance que c'est pas le dernier mot, oui. Mais pour moi, l'espérance n'est pas quelque chose qui vient se calquer ou se déposer sur l'existence par en haut, mais elle va justement chercher son chemin à travers les cailloux de la route. Et donc, il y a quelque chose de râpeux. Je dis souvent que même dans le mot résurrection, il y a quelque chose justement qui résiste. Hein. Il y a quelque chose de difficile. C'est pas, on n'est pas juste ressuscité comme ça. C'est un chemin, c'est un travail, c'est quelque chose qui advient mystérieusement. Pourquoi est-ce qu'un jour on se sent sortir de la dépression ou de la tristesse, en tout cas? Pourquoi est-ce que un jour on est tout d'un coup capable de voir les bourgeons du printemps ou le soleil, ou de sentir la caresse du soleil sur sa peau après des moments terribles? Personne ne peut savoir exactement, mais c'est quand même le témoignage que la vie est là et qu'elle a continué à être vivante en nous au travers même de ce qui la mettait en péril, ce qui la détruisait. Si a day is dawning on the island. See, the boats are leaving with their treasure from the island. Sail against
C'était le groupe Iona qui mettait à l'instant une dernière touche musicale à cette émission signée Radio Réveil. Je vous rappelle le titre du petit livre de notre invitée, Francine Carillo, Le plus que vivant, paru chez Labor et Fides. Un recueil de textes poétiques où l'auteur invite à méditer les évangiles d'une façon différente et à se laisser interpeller là où on ne le pensait peut-être pas. Vous souhaitez poursuivre le dialogue avec nous? Alors n'hésitez pas à nous contacter aux adresses qui vont suivre. Au revoir à tous et à très bientôt dans Paroles de vie.
Vous pouvez obtenir le CD gratuit de la série d'émissions avec notre invité en écrivant à Paroles de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex, France, ou via le site www.parole.ch, courriel vie@parole.ch, vie@parole.ch.